Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bienvenue, chers compagnons, sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Dans chaque épisode, nous étudions l'actualité de notre mouvement ou du cloud en général. Puis, nous débattons sur un sujet de fond. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti! Bienvenue dans ce troisième épisode de Radio DevOps. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qu'on entend souvent associé au DevOps, qui est l'infrastructure as code. Et avec moi aujourd'hui, j'ai Damir et Erwan, qui sont les habitués maintenant du podcast. Je vais quand même les laisser se présenter, si tout le monde n'est pas venu au précédent numéro. Erwan, est-ce que tu peux te présenter ?
Erwan, je suis sysadmin DevOps dans une petite startup qui s'appelle Toucantoco, et ça fait à peu près 10 ans que j'évolue dans ce domaine.
Du coup, moi, Damir, moi je suis ingénieur cloud, je préfère appeler ça réparateur de nuages, du coup, dans une petite ESN parisienne.
Moi, c'est Christophe, je suis consultant indépendant au sein du collectif qui s'appelle l'Hydra, et on aide les entreprises du numérique à déployer leurs applications web sans couper leurs services ou à faire leur transition DevOps. Et cette fois-ci, on vous a préparé quelques actus, et notamment une très très fraîche, puisque Damir nous revient du FOSDEM. Damir, je suis sûr que tu as plein de choses à nous raconter.
Alors oui, effectivement, j'ai eu la chance cette année de me rendre au FOSDEM, donc c'était le week-end dernier. Donc tout d'abord, je vais rappeler ce qu'est le FOSDEM, il y a peut-être certains d'entre vous qui ne connaissent pas. Donc le FOSDEM, c'est un événement qui a été créé dans les années 2000, qui a pour but de réunir toutes les communautés de développement open source et de logiciels libres par extension en Europe. Donc ça a lieu tous les premiers week-ends de février à l'Université Libre de Bruxelles. Donc c'est un événement qui est très important pour l'open source, qui regroupe un grand nombre de personnes. Cette année, on était un peu plus de 8000 personnes, ce qui fait quand même un bon nombre de personnes pour un tel événement. Donc globalement, c'est un événement dans lequel vous allez avoir des conférences d'un côté, appelées les Dev Rooms, sur plusieurs thématiques, donc soit de l'automatisation, du test, des libertés numériques et d'autres choses. Et du coup, vous allez pouvoir voir différentes personnes qui participent à la communauté de certains produits, comme Nextcloud, comme LibreOffice, ou des gens de chez Google ou autres. Donc c'est assez intéressant de pouvoir échanger directement avec eux, et vous allez avoir encore d'autres petits événements à gauche et à droite, donc sur tout le campus. Donc c'est un événement que je suivais depuis quelques années en live entre guillemets, mais j'ai jamais eu l'occasion de me rendre physiquement là-bas. J'ai eu la chance de m'y rendre cette année, qui était en plus pile poil pour les 20 ans de l'événement. C'est une expérience qui était vraiment intéressante. J'ai fait plusieurs dev rooms, j'ai essayé un peu de passer d'une dev room à l'autre. Faut avouer que l'organisation l'événement est entièrement bénévole, et l'organisation est assez impressionnante en fait. Et globalement, c'était vraiment très bien organisé, les confs étaient toutes très sympas, il n'y a pas eu de soucis majeurs. Parfois on a un peu de mal à trouver de la place dans une salle, donc on va sur une autre conférence, mais vu qu'il y a en permanence au moins une quinzaine de conférences en parallèle, on trouve toujours quelque chose un peu à notre sauce. Donc c'est vraiment un événement cool. Donc moi je sais que Erwan y a été. Donc Erwan, est-ce que tu serais tenté d'y retourner ?
Oui, d'ailleurs il a été pas mal question avec l'équipe technique à laquelle j'appartiens d'y aller et cette année. Et en fait, pour tout un tas de raisons logistiques, ça ne s'est pas fait. Mais effectivement, la dernière fois que j'y suis allé, ça commence à dater, c'était en 2012, et j'avais trouvé ça hyper intéressant, avec beaucoup de monde à rencontrer, pas mal de confs qui donnent des idées ou qui permettent d'en apprendre plus, avec des speakers qui sont d'un niveau technique relativement pointu, et du coup, je recommande chaudement d'y aller.
Alors moi j'y suis jamais allé, à vrai dire. Peut-être en effet qu'on ira faire un tour avec l'Hydra un jour là-bas. J'avoue que moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est mon niveau d'anglais qui est peut-être pas assez suffisant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce qu'il faut être plutôt calé en anglais, ou est-ce qu'on peut suivre justement les confs sans avoir un niveau de quoi tenir une conversation de tous les jours, quoi?
Alors c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais effectivement les conférences sont en anglais, la plupart des gens sur le campus parlent en anglais, même s'il y a beaucoup de francophones. Globalement, j'ai pas un niveau d'anglais extraordinaire, mais il faut quand même avoir une bonne compréhension pour les conférences. Après, ça reste souvent du technique, même si, comme je l'ai dit, il y a des thématiques, hein, qui vont un peu au-delà du technique, hein. Mais après, si tu as un niveau de compréhension qui est correct et que tu souhaites pas spécialement échanger avec les communautés pendant des heures ou participer à des discussions ouvertes, c'est ce qu'il y a aussi dans certaines salles, il n'y a pas de correct. Bon, globalement, ça se passe bien. Et après, en cas de doute, on peut regarder quelques replays sur le site du FOSDEM, sort que toutes les conférences sont enregistrées et disponibles en replay pour voir si la compréhension suffit ou pas.
Bon, ben, si je trouve le lien des vidéos, je les mettrai en description. Et du coup,
Je donnerai.
est-ce que tu nous as ramené une petite exclue, ou est-ce qu'il n'y avait pas vraiment de grande exclue là-bas?
Alors, il n'y avait pas vraiment de grande exclue. Peut-être une chose qui se ressent beaucoup, en tout cas à travers toutes les conférences sur lesquelles j'étais, à savoir que j'en ai fait quand même de beaucoup de thématiques différentes, c'est que Docker, clairement, est un peu sur une phase où il est plus la coqueluche de l'open source au niveau des conteneurs. Il y a énormément de podman, mais j'ai pas vu une personne parler de Docker quand il abordait la thématique des conteneurs. Donc, c'est assez intéressant de voir que l'entreprise qui avait choisi un modèle open source qui a été critiqué par certains d'avoir un corps qui est totalement fermé, a un peu sûrement entaché leur réputation au niveau de l'open source, mais autrement il n'y a pas de grosses nouveautés ou de choses à annoncer de ce côté-là.
Ok. Erwan, tu voulais nous parler d'un sujet un peu délicat. Je te laisse marcher sur des œufs et nous en parler.
Le 3 février, en fait, la plateforme Microsoft Teams, qui est l'équivalent de la plateforme Slack, mais fournie par Microsoft, en fait, est tombée. Et en fait, c'est pas vraiment qu'elle est tombée, enfin, elle était inaccessible, pardon, injoignable pour l'ensemble des utilisateurs. Et très vite, donc c'était le 3 février à 8h30 heure US côte Est. Et en fait, ce qui est intéressant, alors ils ont fait preuve de pas mal de transparence, puisqu'ils dès qu'ils sont aperçus du problème, ils ont commencé à en parler sur leur compte Twitter qui est dédié au statut de leur service. Et donc ils ont commencé à dire qu'ils investiguaient, etc. Et en fait, un peu plus d'une heure après avoir découvert le problème, ils ont compris qu'il y avait le renouvellement de leur certificat SSL qui n'avait pas été fait. Et donc forcément, on sait tous ce que ça produit comme problème. Donc une heure après avoir trouvé la source, ils ont su redéployer ce qu'il fallait et le service était de nouveau up pour l'ensemble des utilisateurs. Ce qui est rigolo dans cette, enfin rigolo, ce qui est cocasse dans cette histoire, c'est que donc le service a quand même été injoignable pendant à peu près 2 heures, que je crois, enfin en tout cas sur les chiffres que TechCrunch fournit, il y a 20 millions d'utilisateurs qui étaient impactés. Dans un cas où il y a beaucoup de concurrence avec Slack, ça la fout un peu mal. Et puis ce que moi je retiens plus basiquement, c'est que ça reste un problème assez, on va dire, que tout le monde a, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son type d'organisation. Renouveler les certificats, c'est un vrai sujet. C'est d'ailleurs pour ça que des solutions comme Let's Encrypt peuvent être intéressantes, puisque le renew est automatique. Et c'est toujours cocasse de voir que des structures comme ça, avec probablement 12 millions de personnes qui sont dédiées à ce genre de sujet, peuvent avoir des failles aussi bénignes. Et vous en pensez quoi?
Alors moi, pour avoir fait pas mal de runs à une époque et avoir eu la délicate question de la gestion des certificats hors Let's Encrypt Voilà, qui était un peu un quotidien. C'est vrai que les certificats, ça a toujours été un point qui est assez complexe, parce que le process de renouvellement auprès de l'autorité, et là je parle vraiment hors Let's Encrypt, est quelque chose d'assez lourd, assez long, assez casse-gueule aussi, parce que suffit qu'une information soit pas bonne dans les infos du domaine ou quelque chose comme ça peut prendre du retard. Donc c'est vrai que c'est malheureusement quelque chose qui arrive, qui est assez facile en fait au final de se foirer dans son renouvellement et de planter son site à cause de ça. Après que c'est vrai que ça arrive à Microsoft, c'est quand même symptomatique que c'est vraiment un gros souci à gérer le certificat et c'est là qu'on voit et qu'on comprend aussi comme tu disais le succès en fait d'outils comme Let's Encrypt qui de un sont gratuits mais surtout de deux vont te fournir ben, un tas d'outils avec l'API, avec ACME, etc. pour gérer le renouvellement de manière automatique. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue-là.
Ça m'est aussi arrivé, en effet, d'avoir un client qui n'avait pas renouvelé son certificat, ou plutôt qui n'avait pas prévenu qu'il fallait le renouveler. Notamment parce que souvent les informations arrivent par mail, et si ça arrive dans le mail d'une personne qui est partie, ce qui était le cas en l'occurrence de mon client, eh ben personne n'a vu le mail. Du coup, on s'est juste aperçu que le site marchait plus, et il a fallu chercher pourquoi. Bon, on a très vite compris. Et il a fallu le renouveler. Et le renouveler, ça a pris, en effet, et encore, on a eu de la chance, ça n'a pris que 48 heures, parce que ça peut prendre plus longtemps. Et là, je me dis justement qu'il y a peut-être des choses à faire. Alors, je sais que certains font de la supervision, justement, pour voir à quelle fréquence, plutôt à quelle échéance va être... à quelle échéance il va falloir qu'on renouvelle notre certificat. Donc là, je pense que c'est des choses qui sont intéressantes dans le cas où on a des certificats qui sont pas générés par Let's Encrypt. Mais il faut rappeler, pour Let's Encrypt, c'est super, hein, moi j'adore Let's Encrypt, je le mets un peu de partout. Par contre, dès qu'il y a du paiement en ligne, moi je mets pas de certificat de Let's Encrypt et je conseille à mes clients d'acheter un certificat qui contient des assurances, évidemment, parce que dès qu'il y a du paiement ou ce genre d'informations un peu sensibles, c'est toujours intéressant d'avoir une assurance liée au certificat. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé ou si vous vous posiez cette question-là avant.
Alors moi c'est vrai que ça m'était pas, je m'étais jamais posé la question d'assurance effectivement, je savais pas que ça existait, mais c'est intéressant à savoir. Je me permets juste de rebondir, c'est vrai que le monitoring c'est intéressant, mais à mon avis pour les process à l'ancienne ça ne répond qu'à une partie de la chose, d'être informé que le certificat va expirer. Et pour moi le vrai souci c'est en fait de suivre le dossier de renouvellement qui parfois peut être bloqué à cause de quelque chose et justement pas oublier le poser dans un coin, dire c'est un mail j'y répondrai plus tard et du coup laisser son certificat expirer. Après bon on digresse un petit peu. Mais du coup, effectivement, je connaissais pas cette histoire d'assurance. Je sais pas si Erwan, tu en as déjà entendu parler.
Si, si, bah, quand je travaillais chez Deezer, c'est pour ça qu'il y a plusieurs niveaux et types de certificats que tu peux prendre. Et pour la partie de paiement, on avait pris le certificat de la mort, où je me souviens plus du terme technique associé, mais qui fait que ta barre de navigation, elle est verte, etc. Et c'était dédié pour la partie paiement. Et je me souviens qu'effectivement, obtenir ce certificat, c'était vraiment, c'est un process très 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 long et très coûteux. Et donc, j'étais plus là quand il y a eu le renouvellement de ce certificat, mais j'imagine que c'était de la même façon. Et au sujet du monitoring, moi, on va en parler dans le reste du podcast sur l'automatisation, etc. Mais j'ai fait un petit module pour Ansible avec StatuCake, dont le travail, c'est de créer justement des tests et des notifications côté StatuCake quand un certificat arrive à expiration au bout de X jours. Enfin, avant X jours. Et c'est un moyen pas cher qu'on a mis en place pour avoir des notifications justement sur l'expiration des certificats pour pas se retrouver dans le même cas que Microsoft. Donc même si effectivement ça répond pas à tout, au moins on a l'info.
Bah super. De mon côté, moi je vais vous parler un petit peu d'IBM. Alors ça sort un peu de mes sujets habituels, mais pas tellement, vous allez comprendre pourquoi. Donc la patronne d'IBM, Ginni Rometty, démissionne. En effet, en avril prochain, elle sera remplacée au poste de CEO par Arvind Krishna, j'espère que je le prononce bien, qui dirigeait jusque-là la division cloud computing. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 8 ans, en gros, les ventes d'IBM tombaient et ont régressé de 25%. Et ce qu'on sait sur Arvind Krishna, c'est que c'est l'architecte qui est derrière le rachat de Red Hat. On en a beaucoup parlé l'an dernier, je sais pas si vous vous rappelez, mais le coût considérable de l'acquisition faisait que bah c'était l'acquisition la plus importante d'une des entreprises d'open source, puisque Red Hat a été racheté 34 milliards de dollars. L'activité de l'éditeur open source a eu un effet en fait immédiat sur les résultats d'IBM, puisqu'au dernier trimestre, la division bah du coup Red Hat et a fait progresser le chiffre d'affaires de 24% en un an. Donc la dynamique de Red Hat, elle est tellement importante que la nouvelle direction d'IBM sera en plus la première fois bicéphale. Ça veut dire que avec Arvind Krishna va être nommé comme second Jim Whitehurst, qui est l'actuel dirigeant de Red Hat. Il sera promu au poste de président en avril, toujours. Du coup, c'est l'équivalent du directeur général chez nous. Et suite à cette annonce, en fait, l'action d'IBM a directement grimpé de 5% à la bourse de New York. Alors, se pose aussi la question de la culture, puisque ce qui est aussi là derrière, c'est pas uniquement un objectif financier, c'est aussi un objectif culturel, c'est de faire émerger au sein d'IBM une culture liée à l'open source, parce que IBM, jusqu'à présent, était plutôt réfractaire. Ils ont même perdu plusieurs personnes suite à ces, comment dire, à cette absence de culture open source. Jusqu'à présent, donc bon, tout n'est pas perdu, mais c'est vraiment qu'un début, parce que la culture des actionnaires est vraiment pas là, et elle est pour l'instant plutôt à chercher une marge élevée qu'à aller vers de l'open source. Du coup, on peut aussi se demander, parce que c'est vraiment un serpent de mer, j'ai l'impression, c'est le business model lié à l'open source, puisque bon, Red Hat, on le sait, ils vendent des licences et ils vendent du support, mais à part la licence et le support, est-ce que vraiment on peut s'en sortir? Et est-ce qu'on peut avoir des solutions? Moi, je me pose encore la question, puisque je suis en train de travailler sur un SaaS justement basé sur des briques open source. Mais vous, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce genre de choses? Comment est-ce qu'on peut mettre en place un business qui est basé sur de l'open source et reverser des sources à la communauté?
Bah, effectivement, le modèle du service, je pense que c'est le modèle le plus courant. Offrir une expertise et du support sur la solution, c'est globalement ce qui marche, je pense, le plus. Après, il y a les systèmes un peu de subventions mécénat qui permet de financer, par exemple, des features ou le maintien de tel ou tel module dans une solution, mais les modèles autour de l'open source, je crois qu'il y en a, enfin économique en tout cas, il y en a, en tout cas comme ça, j'en vois pas 12 milliards quoi.
Alors c'est assez marrant, parce que justement au FOSDEM, j'étais à une conférence qui parlait des différents modèles dans l'open source. J'essaie de vous retrouver le lien pour vous l'envoyer en dessous du podcast. Mais c'est vrai que le modèle dans l'open source, c'est toujours un peu comme tu sais, un serpent de mer. C'est une question qu'on se pose tout le temps, que ce soit voilà, les différents types de modèles. Alors effectivement, il y a le support, il y a le développement personnalisé, il y a l'avance de phase, donc c'est-à-dire que la version payante a une version d'avance sur la version open source. Il y a vraiment un tas de modèles différents. Après, est-ce qu'il y en a qui marchent vraiment beaucoup mieux que l'autre? Faut voir, je pense que celui de Red Hat il marche quand même globalement assez bien, vu que voilà, l'entreprise a réussi, hein, comme tu l'as dit et comme on le voit avec les chiffres. Donc il n'y a pas de modèle miracle, je pense. Il faut un bon produit. Après, oui, il y a encore peut-être un modèle à miracle à trouver, mais ça, je ne saurais pas le dire lequel est le plus adapté.
Bon, on va continuer à chercher alors. Bon. En tout cas, en parlant de chercher, on va parler de quelque chose qui nous empêchera de chercher, en tout cas de chercher des paquets dans une ligne de commande, c'est l'infrastructure as code. Alors l'infrastructure as code, on entend beaucoup parler quand on s'intéresse au DevOps, puisque c'est l'un des piliers DevOps et de l'automatisation, et du coup, on automatise les infrastructures. Avant de vraiment rentrer dans le sujet, j'aimerais bien connaître un petit peu votre définition à chacun de ce qu'est l'infrastructure as code pour vous. Alors, on va commencer par Damir.
Alors, pour moi, l'infra as code, ça va être de, on va dire, traduire tout ce qu'on a fait et ce qu'on faisait avant en clic-clic, en script, etc. Et de le centraliser dans une syntaxe, un langage, pour pouvoir l'appliquer. Donc traduire toute notre infra physique ou virtuelle ou etc. Vers des fichiers de configuration ou un langage. Donc, voilà, ça serait ma définition.
Je rejoins pas mal, enfin j'ai exactement la même définition en tête que ce que vient de dire Damir. Moi, je rajouterais juste la notion d'indempotence d'indempotence, pardon, pour s'assurer que à chaque fois qu'on rejoue ces scripts, on obtient le même résultat, quel que soit le contexte dans lequel on se trouvait.
Bon, je crois qu'on va s'entendre parce que ma définition est assez proche. Pour moi, dès qu'on fait du code d'infrastructure, en fait, on décrit dans du code informatique, qu'on peut versionner dans Git, évidemment, puisque c'est le but, toute notre infrastructure. Ce qui nous assure, en fait, que une fois qu'on a fait ça, bah, on n'a plus besoin d'aller tripatouiller nos petits serveurs et que en fait notre code nous permet en fait de lancer n'importe quel outil et ces outils-là vont gérer notre infrastructure, que ce soit les réseaux, les disques, les machines ou même les paquets ou la configuration qui est installée sur les machines. Pour moi, c'est ça l'infra as code et c'est en plus vraiment s'assurer qu'on puisse versionner du coup versions de notre infrastructure. Bah, une fois qu'on a un petit peu défini tout ça, peut-être qu'on peut raconter un peu comment on en est venu à l'infra as code. C'était quoi en fait qui vous a poussé à faire de l'infra as code? Comment vous avez entendu parler du code d'infrastructure? Racontez-nous un peu cette histoire. Erwan, est-ce que tu veux bien commencer?
Oui, il y a fort longtemps, lorsque je travaillais pas mal dans les data centers, etc., plutôt, enfin, la gestion des confs et l'installation de nos machines, en fait, on pensait qu'on était assez avancé puisqu'on avait tout un tas d'ensembles de scripts et d'archives qui contenaient des fichiers de conf, donc des scripts qui se jouaient sur les machines et qui déployaient donc ces fameuses archives de conf et qui faisaient tout ce qu'il fallait pour installer les machines. Et on était assez contents avec ça à l'époque, ça marchait plutôt bien, on essayait de faire des scripts un peu malins et c'était cool. Et en fait, le temps passant, justement ce côté de rejouabilité, ce côté d'idempotence, putain, je vais y arriver, fait que bah, les scripts qu'on avait étaient bien, mais bon, c'était pas super en termes de suivi, c'était pas super. Enfin, il manquait tout un tas de choses, et c'est, enfin, moi personnellement, c'est comme ça que je me suis mis à travailler avec d'abord Ansible et Chef. Puisque l'idée c'était de dire, ah bah tiens, ça fait comme mes scripts, sauf que il y a tout un tas de modules qui fait que je peux faire ça plus facilement avec dans une sorte de framework beaucoup plus lisible, et c'est à partir de là, donc je sais plus trop en quelle année c'était, mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai totalement laissé tomber mon ancienne méthode avec mes scripts et que je suis passé sur ce genre d'outils.
Ouais, moi du coup ça va être un peu, ça va peut-être être un peu moins vieux que vous vu mon expérience, mais du coup j'étais dans une petite PME et faut, voilà, moi j'aime bien automatiser les choses, j'aime pas refaire des tâches répétitives qui n'ont pas de valeur ajoutée. Et globalement il n'y avait pas de vraie gestion interne, il n'y avait pas d'outils. À un moment on m'avait demandé de faire plusieurs tâches qui étaient assez répétitives, donc j'ai commencé à me poser la question de comment le faire, est-ce que je faisais qu'un script ou des choses comme ça. Et je m'étais un peu renseigné, je suis un peu tombé par hasard à l'époque. C'était sur du Puppet, donc ça remonte quelque peu quand même. Et j'étais voilà, j'ai commencé à mettre en place Puppet, à voir comment ça marchait, à essayer d'automatiser un maximum de choses avec. Et donc ça c'est plus pour la partie, pour moi je dirais industrialisation. Et après pour ce qui est vraiment d'infrastructure as code, c'est-à-dire gérer son infrastructure de base, donc ses briques élémentaires, ses VM, etc. J'ai vraiment découvert le plein potentiel de ça quand j'étais chez un infogéreur français et que bah, AWS a explosé. En fait c'est là qu'on sait que si le tooling a côté explosé, parce qu'on peut dire ce qu'on veut d'AWS ou du cloud public, ils ont quand même provoqué un gros mouvement d'avancée au niveau des outils de gestion aussi et des choses comme ça. Donc c'est là que j'ai commencé à découvrir. Alors Terraform, j'ai découvert assez tôt du coup, et j'ai petit à petit découvert plus en plus son potentiel.
Alors moi c'était je crois que c'était aux alentours de 2010-2012. À l'époque, moi je gérais des applications, donc c'est-à-dire je gérais pas des infrastructures, mais je gérais le déploiement des applications, puisque j'étais dans une grosse multinationale, et du coup les services, en fait il y avait plusieurs services, ops, il n'y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs. Et petite parenthèse, même entre service ops, il peut y avoir des frictions. Et à l'époque, je faisais vraiment du script et du shell pour installer mes applications. Et je traînais beaucoup avec un développeur Ruby et on avait entendu parler de Chef. Et c'est là où j'ai commencé avec lui à sur mes heures perdues à essayer de comprendre et d'apprendre Chef. Spoiler, au bout de 3 mois, je n'y suis pas arrivé et finalement j'ai fini par abandonner. Mais c'était une expérience assez intéressante puisque bon, on voulait faire justement, on voulait apprendre tous les deux, lui à manipuler cet outil de gestion de configuration et faire du code et surtout tester le code. Et moi, bah apprendre à installer des machines, mais pas en installant des paquets parce que j'ai toujours trouvé ça un peu pénible. Et puis plus tard, quand je suis devenu freelance, tout de suite, je me suis intéressé à Ansible, notamment parce que bah, mon premier client, en fait, c'est ce qu'il voulait. Du coup, je suis allé voir Ansible, j'ai un peu gratté, et bah, j'ai vu que c'était beaucoup plus simple que Chef, que la courbe d'apprentissage était beaucoup plus courte. Et c'est comme ça que j'ai commencé et que je suis resté à Ansible pour gérer la configuration, c'est-à-dire, en gros, installer mes serveurs, la config de mes serveurs et faire des images immuables avec mes serveurs. Et puis un tout petit peu après, j'ai découvert Terraform pour gérer tout ce qui est en effet infrastructure, et puis Packer bah pour packager mes images, parce que moi je suis assez fan des images immuables, et dès que je peux en mettre quelque part, bah, j'en mets. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est, notamment après avoir écouté le DevOps, le dernier DevOps qui durait 3h30 quand même avec Quentin Adam, c'est pour vous, est-ce que un Dockerfile c'est de la gestion de configuration ou est-ce que c'est de l'infra as code ?
La question un peu épineuse de où tu places le conteneur, est-ce que c'est de l'infrastructure ou est-ce que c'est du code? C'est vrai que pour moi, j'aurais maintenant tendance, alors c'est pas du tout par rapport à des histoires de layer ou choses comme ça, plus des histoires de logique de gestion, à le placer du côté du code. Donc je le placerais plus dans de la config que de l'infrastructure en tant que telle, parce que c'est quelque chose pour moi qui est maintenant plus haut niveau, qui est vraiment plus lié à l'application et aux paramètres des librairies, etc. Donc ouais, j'aurais plutôt tendance pour le coup à le mettre côté gestion de configuration, voire même code directement. L'infrastructure, je mettrais plus le Kubernetes ou le système, l'orchestrateur en fait qui va le lancer, qui va gérer son cycle de vie. Après, je sais pas ce qu'en pense Erwan.
Pareil, d'ailleurs, là, enfin, où je travaille actuellement, c'est clairement comme ça que c'est vu, quoi. C'est finalement Docker, c'est anciennement le package TarGZ des applications qu'on faisait, quoi. Donc, moi, je le vois aussi plus côté dev.
Ah, c'est marrant parce que moi j'ai tendance à penser qu'en fait tout ce qui touche au serveur, du coup comme dans un conteneur on installe pas mal de choses qui sont en rapport avec le serveur et on tune pas mal de choses, c'est quand même quelque chose qui doit rester pas entre les mains de l'Ops, mais qui doit au moins avoir, que l'Ops doit avoir un regard là-dessus, parce que finalement on peut mettre tout et n'importe quoi dans son conteneur et si on n'a pas l'habitude du système, on peut faire des trucs qui peuvent sortir un peu de l'ordinaire et peut-être pas forcément faire les meilleurs choix. Je sais pas. Donc ça, c'était la question un peu troll. Et du coup, quand on veut s'y mettre à la phrase code, par où est-ce qu'on commence ? Par où est-ce qu'on commence et pourquoi est-ce qu'on doit faire de l'infra as code rapidement quand on veut commencer à faire de l'automatisation ? Je pense que Damir a quelques pistes qu'il va nous exposer.
Mais merci pour la balle. Non, mais du coup, c'est vrai que c'est une question épineuse déjà de quand est-ce qu'on commence à le faire. Moi, de mon point de vue, j'ai envie de dire au plus tôt, parce que c'est là, je parle vraiment au niveau de quand on crée une infrastructure, éviter un maximum de faire des choses qui sont pas en infra as code, parce qu'on sait tous comment ça se passe. Un projet, bah, ça avance, ça aura toujours du retard, et on va toujours finir par se dire ouais, on le fera plus tard, on n'aura plus le temps. Donc, pour moi, c'est le faire dès le début. Même prévoir si possible l'infrastructure comme ça, en pensant déjà à cette approche. Et après, ta deuxième partie de ta question, c'était du coup comment le faire, il me semble.
C'est pourquoi le faire rapidement.
Pourquoi le faire rapidement ? Bah, tout simplement pour réutiliser les choses. C'est vrai que c'est le but de l'infrascode, on n'est pas trop revenu dessus. Mais vraiment, les principaux buts, c'est déjà de versionner son infrastructure, de pouvoir éviter la duplication de code, donc de faire de la standardisation d'infrastructure. Donc demain, par exemple, vous déployez une base de données, c'est intéressant d'en faire un module, par exemple, sous Terraform, et de se dire, la prochaine fois que je veux créer une base de données, je ne vais pas me retaper tout le code, je vais juste appeler ma fonction qui le crée, et du coup, gagner du temps. Donc c'est pour ça que je dis de le faire au plus vite, pour standardiser un maximum. Et du coup, voilà, c'est essentiel de le faire de cette manière-là. Après, je pense qu'il y a différentes approches possibles. Mais oui, moi je voilà, ça c'est je penserais plutôt comme ça. Après, je sais pas ce que Erwan en pense à ce niveau-là.
Ouais, bah le comme enfin faire des choses à la main c'est cool, mais après faut les expliquer et du coup les faire directement en code, ça a la garantie de d'être rejouable par quelqu'un d'autre sans avoir à poser de questions. Et la notion de standardisation, elle est hyper forte parce que c'est plus tôt tu commences à avoir ce genre d'approche et plus tôt tu t'assures que justement tu prenais l'exemple de créer une base de données sur AWS par exemple, bah, tu t'assures que tout le monde la crée de la même façon avec la même typologie de, je sais pas, de tags, les mêmes trucs par défaut, etc. Et sans dupliquer quoi que ce soit, et forcément en évitant les erreurs qui seraient potentiellement jouées à la main si tu devais suivre je sais pas, un tuto ou un how-to qui dit voilà, maintenant tu choisis la taille de ton instance ou quoi que ce soit. En tout cas, aujourd'hui, tel que on travaille là où je suis, c'est quelque chose qu'on démarre dès le début des projets, à chaque fois.
Si je peux me permettre juste de rebondir, comme je disais, c'est même intéressant de, je pense, hein, de le voir dès la conception du projet, dès l'architecture du projet, et de se dire quelle partie on va pouvoir un peu, pas externaliser, mais peut-être mettre dans un repo à part pour utiliser sur d'autres projets, etc. Je pense, et même capitaliser sur des choses qui existent déjà. C'est intéressant aujourd'hui en entreprise d'avoir un repo transverse avec différents modules. On reprend l'exemple de la base de données, et se dire je l'ai fait pour le projet A. Quand je travaille sur le projet B, je vais essayer de réutiliser le même module et du coup gagner du temps. Donc je pense que c'est vrai qu'il y a aussi, c'est vraiment la conception aussi qui a à prendre en place ce concept.
Pour moi, il y a un intérêt à le faire rapidement pour plusieurs choses. Bah, la première, c'est que ça va plus vite. En fait, j'étais chez un client avant d'être indépendant et je connaissais déjà, je m'étais déjà frotté à chef, comme je vous ai dit. Et chez ce client-là, c'était l'une de mes premières fois où j'étais vraiment administrateur système. Et quand on mettait à disposition des environnements de test et de formation, ça prenait, mais au bas mot, 5 jours. 5 jours pour mettre à disposition les serveurs, les réseaux, la configuration, et et encore on avait des images des serveurs, hein. C'est-à-dire qu'on lançait des serveurs depuis des images, mais c'était tellement long de faire, fallait lire une doc, fallait lancer plein de commandes sur plein de serveurs, etc. Et je vous promets, 5 jours. Et encore, moi je me souviens d'une expérience traumatisante, c'est la première fois que je l'ai fait, j'étais un tout jeune ops du coup, enfin un tout junior, pas tout jeune, parce que j'avais quand même déjà un certain âge, mais ça fonctionnait pas, et je peux vous dire que au bout de 5 jours, ça fonctionnait toujours pas. Je balisais un peu, je savais pas ce qui se passait. Les autres étaient tellement occupés qu'ils pouvaient pas m'aider. S'il y avait eu de l'infra à ce code et que tout avait été écrit dans du code informatique, déjà j'aurais pas mis 5 jours, mais j'aurais peut-être mis une demi-journée. Mais en plus, les erreurs, on les aurait peut-être vues et corrigées avant. Donc là, pour moi, c'est vraiment important de faire de l'infra à ce code pour ça. Et aussi pour aller bien plus vite quand on reprend à nouveau des choses qu'on a déjà fait. Et on peut alors du coup se demander, mais ok, c'est bien la phrase code, je veux m'y mettre, mais par quoi je commence? Moi, à titre perso, je vais donner mon avis avant vous. M'excusez les gars, je vais prendre la priorité. Pour moi, si on veut commencer quelque part, la première chose à faire, c'est de commencer par ce qu'on appelle provisionner un serveur, c'est-à-dire écrire du code qui installe et configure un serveur informatique. Ça peut être soit un serveur complet, soit installer par exemple un Nginx pour voir comment ça fonctionne et commencer à coder ça. Est-ce que vous voyez d'autres idées pour commencer pour des gens qui n'auraient jamais fait d'infra à ce code?
Alors c'est vrai que je vais peut-être être un peu embêtant et toujours digresser, mais il est important aussi de ouais on a tendance là un peu parler de deux choses qui sont du coup l'industrialisation, le configuration management et l'infrastructure code en tant que tel. Moi j'aurais tendance à dire de commencer peut-être plus par l'industrialisation, comme tu dis, sur des VM assez simples. Voilà, pour installer Nginx, installer une base de données. L'exemple classique, hein, c'est d'installer deux frontaux avec une base de données qui a un WordPress. C'est un grand classique, mais ça marche toujours plutôt bien, je trouve. Et après, justement, de passer ça en infra as code, donc pour la partie plus basse, donc le networking, les VM, le load balancing. Donc ça, c'est une chose qu'on peut faire après. Justement, commencer comme ça sur un exemple concret. Donc un WordPress, c'est un truc très classique. pouvez mettre ce que vous voulez. Et du coup, à chaque fois, d'aller un peu plus loin, de pousser le concept, d'ajouter des serveurs, de variabiliser, d'externaliser. Donc, je pense que c'est une bonne idée d'avoir quelque chose de concret. Moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup d'avoir. C'est pas juste de faire un exercice et dire l'exercice est fait. C'est d'avoir quelque chose qui puisse s'afficher et marcher. Donc, je pense, moi, mon point de vue, ça serait de faire quelque chose comme ça, se donner un petit projet et de l'itérer, tout simplement. Pour mettre de l'infrastructure, de l'industrialisation, de l'automatisme, etc. Donc voilà, ça c'est un peu mon point de vue là-dessus.
Oui, bah je ne peux que aller dans votre sens, commencer par quelque chose de simple et être plus ambitieux au fur et à mesure en créant des modules, en variabilisant un maximum de choses, etc. C'est la meilleure approche. Commencer à bien savoir marcher avant de courir, ça me paraît effectivement une bonne idée. Et pareil, effectivement, on a tendance, enfin depuis le début, à mettre un peu dans le même sac le provisioning de machines et le déploiement de configurations et le management de packages, par exemple. Mais moi, ce que, par exemple, quand j'ai commencé à me mettre sur Terraform, j'ai juste commencé, je suis juste mis dans la situation de me dire, bon, bah, à chaque fois que j'ai besoin d'une VM, j'aimerais que ça se joue vite, et puis j'aimerais ne pas avoir à les delete en allant cliquer sur 12 millions de trucs dans l'interface. Et c'est comme ça que je me suis mis dans Terraform avant de faire des choses plus ambitieuses. Et je pense que c'est un bon début aussi.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah, je vous propose qu'on parle de Terraform un tout petit peu plus tard, parce que Damir a cité un terme qui est la gestion de configuration. Damir, est-ce que tu veux bien l'expliquer à nos auditeurs ce que c'est que la gestion de configuration et ce qu'on entend par là?
Alors, en tout cas, je vais donner ma définition et ma vision de la chose. Je dis pas qu'elle est plus parfaite que d'autres, hein. Pour moi, la gestion de configuration, ça va être simplement, on a du matériel, on a du matériel ou de l'immatériel, mais en tout cas, on a des systèmes, que ce soit des VM, que ce soit des machines physiques ou que ce soit des switches même, qui vont avoir des configurations. Et c'est vrai que très rapidement dans une entreprise, quand vous avez 2000 serveurs et que vous devez mettre à jour un paquet sur tous les serveurs ou que vous devez gérer une config sur tous les serveurs, vous en doutez bien qu'on fait pas du SSH sur chacun des serveurs, même si avec un fort en bas. Pour les plus trolls d'entre vous, ça pourrait se faire. On va utiliser ce qu'on appelle de la configuration de management ou de l'industrialisation. Ça va être d'automatiser toutes ces actions sur un certain nombre de serveurs pour du coup voilà, automatiser vraiment la configuration en soi du serveur et de ce qu'il y a sur le serveur, donc des middleware. Donc voilà, sur le switch par exemple, pousser une configuration de routage sur une machine, de pouvoir installer Nginx et de configurer pour avoir un certificat avec Let's Encrypt plus une config d'un VEOS, voilà, c'est pour moi c'est des choses comme ça. Après, je sais pas s'il y a des choses à rajouter, je vous laisse me dire du coup si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus.
Moi, je suis d'accord et je rajouterais là-dedans aussi tout ce qu'on fait pour déployer une application, par exemple. Une application qui nous est propre. Je sais pas, par exemple, justement, si on doit déployer un Nginx qui fait un reverse proxy sur un petit service node, par exemple. Et que le service node, c'est l'application de notre entreprise qui est sur un autre repo ou des choses comme ça, tout ce qui va permettre de mettre en place ce type de configuration et de système, moi je mets ça dans le même paquet, ou même déployer des conteneurs, moi je mets ça dans le même paquet.
Alors, c'est étonnant parce que tu parles de déploiement. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est, toujours en utilisant un outil de gestion de configuration, de provisionner le serveur dans un premier temps sans l'application. Donc, d'installer tout ce qu'il faut pour que le serveur tourne. Donc, tu parlais de Node.js, donc installer Node.js, installer toutes les dépendances système. Et faire un autre code qui ne sert qu'à déployer l'application et uniquement l'application et pas tout ce qu'il y a autour. Je sais pas si ça c'est quelque chose que vous faites vous, mais moi j'aime bien vraiment séparer les choses pour que justement le déploiement soit plus simple. Et comme je vous l'ai dit, comme j'adore les images immuables, j'ai tendance justement après avoir tout installé, toutes les dépendances, de créer une image et puis de lancer les serveurs après directement depuis cette image et puis de déployer l'application avec en effet un outil de gestion de configuration aussi. Ce sont des outils souvent qui permettent d'automatiser pas mal de choses.
Ah, c'est vrai que j'ai tendance à faire un peu pareil, de mettre un peu l'application de manière séparée. C'est aussi plus simple quand on met en place de la CI, de pouvoir du coup, c'est déjà séparé, il y a juste à l'automatiser cette partie-là. Et du coup, c'est plus simple de séparer les deux cycles de vie, parce que le cycle vie des middleware n'est pas forcément le même que l'application, surtout quand on est dans une approche DevOps où on veut faire plusieurs déploiements par jour, on n'a pas besoin de mettre à jour généralement son Nginx ou autre plusieurs fois par jour. Donc c'est vrai que j'ai tendance aussi à le séparer et le mettre dans la CI dans le meilleur des cas, même mettre les deux dans la CI dans le meilleur des cas. Donc là-dessus, je te rejoins plutôt pas mal.
Je pense que je me suis mal exprimé. Je disais pas de forcément tout mettre comme ça. Et je suis assez d'accord de plutôt. Enfin, par exemple, pour Ansible, typiquement, tu fais des playbooks qui appellent plusieurs rôles et tu as tes rôles qui sont dédiés juste au déploiement de ton application, par exemple. Et que tu ne peux jouer que dans certains cas. Je voulais juste préciser ça.
Y a pas de souci. Alors du coup, y a plein de solutions, puisque on en a cité quand même quelques-unes. Alors on peut répéter, mais on a cité Chef, on a cité Puppet, on a Salt aussi. Je crois qu'il y en a d'autres. Alors il y a CF Engine qui est assez vieux maintenant, enfin assez ancien, et il y a Ansible. Et quand on arrive, on a tous ces outils-là, bon, à part le fait de pouvoir choisir l'un ou l'autre parce que c'est du Python ou parce que c'est du Ruby, ou je sais même pas s'il y en a en Node, qu'est-ce qui nous permet de choisir entre ces solutions-là, et vous, quelle solution vous avez choisi et pourquoi ?
J'espère déjà ne pas avoir un jour un gestionnaire de configuration en Node. Ça c'était pour le petit troll. C'est vrai que pour le choix, moi j'aurais tendance à me fier tout simplement à la communauté, surtout si on débute. Excusez-moi. C'est vrai que c'est toujours important la communauté dans l'open source. Un produit qui a pas de communauté, c'est un produit qui se meurt. Globalement, actuellement, je pense pas me tromper, et vous serez assez d'accord pour dire que le produit qui a la meilleure communauté, la communauté qui marche le mieux, c'est Ansible, notamment parce que c'est du Python. Python est à la mode avec le mouvement DevOps. Donc je pense que Ansible est un bon choix là-dessus. Ça repose sur des standards, ça marche plutôt bien, il y a une bonne communauté. Je pense que le produit va vivre assez longtemps et assez bien, même si les autres choix sont pas mauvais en soi. Je sais que Ansible peut être un peu lent si on a vraiment des parcs de serveurs qui sont vraiment énormes. On va plutôt aller peut-être sur quelque chose comme Salt, mais la communauté plus renfermé, le produit est un peu moins populaire. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Erwan, sur ce choix.
Ouais, moi j'aime bien Ansible déjà parce qu'il y a le côté easy to learn, hard to master. C'est même pour des gens qui n'ont jamais trop touché à tout ça, lire du Ansible c'est quand même assez facile. Et pour pouvoir et permettre à les gens de contribuer. Moi, par exemple, dans la boîte où je suis, c'était assez important puisque j'étais pendant longtemps le seul à m'occuper de toute cette partie. Et pour pas être bloquant, le fait d'avoir un outil facile à prendre en main, c'était quand même assez crucial. Je suis d'accord aussi sur les questions de comment ça s'appelle de performance quand on a des très très gros parcs. Bon, moi je suis pas dans ce cas-là, donc c'est effectivement un problème auquel j'ai pas à me confronter. Historiquement, j'ai fait un peu de Chef aussi, que je trouve que globalement ça ressemble pas mal à du Ansible, mais par contre je pense que la force de Ansible, c'est effectivement le côté communauté avec le Ansible Galaxy qui est quand même hyper fourni. Alors les rôles qui sont proposés sont de qualité hyper hyper diverses, mais mine de rien il y a toujours des gens qui ont fait des rôles de plutôt bonne qualité à disposition. Et surtout, ce que je trouve intéressant dans Ansible, c'est que c'est hyper facile à pimper, entre guillemets, parce que créer un module pour Ansible, c'est quand même hyper facile. Créer son propre gestionnaire d'inventaire dans Ansible, c'est pas compliqué non plus. Et du coup, moi, je suis assez fan de cette solution. Et quand je vois que mes collègues qui sont pas forcément liés à l'infra ou quoi que ce soit, arrivent à faire des pull requests sur notre repo pour proposer des améliorations ou de nouvelles tâches sans problème, et que c'est des gens qui viennent, par exemple, enfin, qui sont développeurs front-end, bah, je trouve que c'est vraiment cool.
Ah, bah, moi aussi, j'ai choisi Ansible. C'est je spoil. Moi, j'ai essayé que Chef et en cible. Ce que je trouve difficile avec Chef, déjà, c'est la courbe d'apprentissage. Alors, si vous voulez avoir des résultats rapidement, choisissez un outil qui a une courbe d'apprentissage assez courte, et en cible fait partie de cela. La différence que moi je vois, en tout cas, entre Chef et en cible, c'est que Chef, on écrit vraiment du code Ruby. Pour le coup, enfin, c'est un DSL, mais ça reste quand même du code Ruby. Alors qu'en cible, c'est du YAML. C'est pas vraiment du code Python. En effet, on peut le tuner, comme tu dis, Erwan, en faisant du code Python ou autre, même d'ailleurs. Mais c'est assez facile à lire, c'est assez facile à mettre en place, et c'est vraiment très rapide. Et en effet, la communauté qui fournit des rôles qui nous permet soit d'installer un Nginx, soit d'installer un HA proxy, soit configurer des règles de routage sur IP table, y a vraiment tout et n'importe quoi. Alors, du coup, se pose la question du choix, mais on va peut-être pas l'aborder aujourd'hui. On pourra peut-être faire un deuxième podcast sur, justement, si ça vous intéresse, aller plus en détail dans Ansible. Alors, justement, on voulait parler de service managé. Donc, service managé, en gros, si je me trompe pas, Erwan, ce que tu avais en tête, c'est de parler des services du cloud provider, donc des VM, des disques, des réseaux, etc., etc. Et, justement, Ansible permet de faire ça. Est-ce que vous utilisez Ansible pour gérer toute l'infrastructure, ou est-ce que vous gardez Ansible juste pour la gestion de la configuration, l'automatisation, ou est-ce que vous utilisez un autre outil?
Pour ma part, là où je suis, on différencie vraiment la partie de conf, etc., de la partie service managé et VM, network, etc. Donc du coup, on a le Terraform d'un côté et, on va dire, le Ansible de l'autre. Et je sais que, par exemple, avec Ansible, il y a tout un tas de modules pour parler à AWS, par exemple. Mais vu qu'il n'y a pas le même système que Terraform avec les states, etc., je ne sais pas trop comment... J'ai jamais testé, hein, pour être franc, mais je ne sais pas trop comment ils se débrouillent. Par exemple, si à un moment, tu provisionnes 5 machines et que tu en as besoin de 6, est-ce que c'est à toi, dans ton Ansible, de faire la logique qui dit « Ah bah tiens, j'en ai besoin de 6, il y en a déjà 5 qui sont présentes, alors j'en crée qu'une seule » ou est-ce que, comme dans Terraform, il fait la différence avec les états et il se débrouille tout seul? Ça, si vous êtes plus expert, je suis preneur de vos retours.
Alors moi, j'avoue que je suis pas du tout expert en Ansible. Moi, je retournerai à la question de l'autre côté, parce que j'ai tendance à beaucoup plus peut-être utiliser de providers cloud publics qui ont des offres très complètes au niveau des services managés. Et j'ai tendance à faire du coup l'inverse. On est dans un schéma un peu inverse dans mes situations généralement, où on va plus utiliser Terraform pour gérer en fait le service managé, donc au final indirectement la configuration du middleware. Quand on crée une base de données, je n'ai pas de recette Ansible pour le faire, c'est juste mon Terraform qui va appeler par exemple sur AWS mon RDS et qui va me créer des différents paramètres et des choses là. Donc moi du coup, ouais, c'est vrai que c'est assez marrant parce que je suis dans le schéma inverse où je cherche pas à faire l'infra avec l'outil de configuration management, mais à faire le configuration management sur du coup des services managés à partir de mon infra Scott Terraform. Donc c'est là que je suis un peu plus dans le schéma, donc c'est intéressant de voir qu'il y a les deux points de vue. Je sais pas si tu as testé, Christophe, ce point de vue, que ce soit sur OVH ou autre.
Alors j'ai fait de la AWS quand même, hein. J'ai commencé par ça aussi. Je vais juste rappeler un petit peu pour nos auditeurs qui sont peut-être pas forcément au fait, puisque là on s'adresse vraiment aux néophytes qui découvrent l'infra as code. Comment ça marche un petit peu Terraform? Terraform, on va décrire dans un langage sémantique descriptif notre infrastructure. Et en fait, Terraform va nous permettre, avec plusieurs commandes, de 1. Interroger le fournisseur cloud pour voir dans quel état il est. Planifier, donc on lance une autre commande pour que Terraform nous dise « Ah bah, dans ton code, il y a ça qui a changé, mais c'est pas encore sur le fournisseur cloud, donc je vais créer telle machine, je vais créer tel réseau et je vais ajouter tel disque. » Et enfin, il y a une dernière commande qui nous permet d'appliquer vraiment la configuration, ce qui permet aussi d'avoir un schéma de ce qu'on va faire et d'être sûr de ce qu'on va faire. Et puis aussi, on peut appliquer certaines parties du code, ce qui nous permet Terraform. Je ne sais pas si en cible fait ça. J'avoue que moi aussi, je préfère dédier en cible à la gestion de configuration, à la création des images de mes serveurs avec Packer, mais utiliser Terraform pour gérer tout ce qui est les services managés ou non managés d'ailleurs. Mais pour répondre à la question, oui, j'utilise Terraform avec OpenStack. Et j'utilise que ça. Ce que je fais souvent, comme je vous l'ai dit, c'est je crée une image qui est la même dans tous les environnements et je m'arrange pour configurer cette image-là avec des variables d'environnement à travers Terraform. C'est-à-dire que je mets ce qu'on appelle un cloud init ou un script d'initialisation de la machine, par exemple, c'est souvent les machines en tout cas qu'on démarre comme ça, et je crée des variables d'environnement avec des valeurs spécifiques dans chaque environnement. Est-ce que c'est ça que tu avais en tête, Damir ?
Alors, non, ma question c'était peut-être un peu plus. Par exemple, chez OVH, ils ont un. Parce que je sais que tu travailles pas mal avec OVH, ils ont un service de base de données du coup relationnel qui est du coup managé. Donc, c'était ma question, c'est est-ce que tu as déjà essayé en fait de monter une base de données managée avec du Terraform, du coup, pour ne pas avoir installé un MySQL, un Postgre ou whatever, et du coup, gérer directement quelque chose qui est managé.
Pas avec OVH, non. J'avoue que là, pour le coup, j'ai fait des briques pure VM. Par contre, je l'ai fait avec Amazon Web Services au début. J'ai lancé, en effet, des RDS et autres, des load balancers directement. Mais pas chez OVH. Après, je sais que la base de données as a service chez OVH, elle est assez récente. Puisqu'à l'époque où je m'étais intéressé à ça, elle était encore en bêta, je crois.
Oui, elle est assez récente. C'est comme chez Scaleway, c'est des choses qui sont assez récentes, mais qui sont intéressantes. Donc, c'est pour ça que je te demande si tu avais un retour dessus.
Je n'en ai pas encore, mais on pourra aller gratter. Du coup, on a beaucoup parlé de Terraform, mais au final, je m'aperçois qu'il n'y a pas vraiment d'alternative à part Terraform, finalement. Il n'y a pas d'autres... Enfin, il y en a peut-être d'autres, mais un peu plus confidentiels. C'est Terraform a vraiment trusté les outils d'automatisation d'infrastructure.
En tout cas, Ansible, ils veulent se positionner là-dessus, hein, puisqu'il y a tout un tas de modules qui sont considérés comme des modules certifiés là, qui tapent dans du AWS. Alors j'imagine qu'il y a globalement la même chose pour les autres cloud providers, mais il y a clairement une volonté de tout faire avec Ansible.
C'est vrai que Terraform, ils ont un peu pris le marché. Alors ils sont arrivés, je pense, au bon moment aussi. Et faut voir que il existe des autres solutions comme CloudFormation ou des choses comme ça. Souvent, elles sont plus limitées déjà par le nombre de providers. C'est vrai que Terraform, mais au final, si on prend là aussi, ça, je vais essayer d'un peu vulgariser. Mais Terraform, c'est un outil qui regroupe un outil, un langage, un système de fonctionnement. Mais après, il va y avoir une partie qui est importante, c'est la partie provider. Et en fait, vous avez des centaines de providers qui existent sur le site de Terraform. Et vous pouvez du coup lier votre code Terraform à de l'OpenStack, à du AWS, à de l'OVH. Vous avez vraiment un tas de choix différents. Ça, je pense que ça a fait une grosse partie de sa réussite. Et après, il y a aussi la boîte qui est derrière, qui s'appelle HashiCorp, qui est une entreprise qui a bien réussi à s'implémenter dans les outillages un peu qui sont à la mode avec le mouvement DevOps. Donc que ce soit Vault, Packer, comme tu le citais tout à l'heure, c'est un ensemble d'outils qui fonctionnent très bien, qui sont réputés, et je pense que c'est facile aujourd'hui quand on a une stack avec déjà du Packer et des choses comme ça, de se dire je connais quand même l'entreprise qui soutient ce produit là, c'est un produit solide, on a tendance quand même à se retourner vers eux en fait, vu qu'on est satisfait.
Tout à fait. Alors justement, j'étais un peu curieux, je suis allé sur la page Alternative To, je sais pas si vous connaissez alternativeto.net, et j'ai regardé les alternatives à Terraform, et le premier qui sort en effet c'est Ansible. Il y en a un autre que je vois régulièrement sortir sur les pubs Twitter, c'est Pulumi. J'ai jamais essayé. Ça remplace en fait le YAML par un DSL en code pur. Ça s'adresse à AWS, Azure, Google Cloud Platform, Kubernetes. Et autres. Je sais pas si vous l'avez déjà essayé. Il y en a d'autres comme Cloudify. aussi. Les deux, Pulumi et Cloudify, sont open source. Et GiroTools. GiroTools, je connais pas du tout ce que c'est. Je sais pas, j'en ai jamais entendu parler. Est-ce que vous êtes intéressé à ces trois autres outils?
Non, pas du tout.
Alors moi, je suis pas intéressé. Cloudify, j'en ai déjà entendu parler. Après, c'est vrai qu'avoir un outil, peut-être Scansible, je le trouve un peu limité dans certains cas, notamment au niveau de la gestion du conditionnel, des choses comme ça. Je trouve que c'est très vite. On arrive, là, je vois, je suis sur un projet où j'ai des règles. Clairement, je suis obligé de mettre un commentaire pour expliquer comment fonctionnent les trois lignes de code que j'ai mis, parce que sinon, ça demande des heures à vraiment être bien compris. Donc, ça m'intéresserait bien de voir un bon remplaçant de Terraform ou une bonne alternative plutôt qui soit plus poussée sur ces aspects-là et qui soit tout aussi efficace. Mais ça demande du temps à tester. Il faut voir ce qui sort en fait de ça.
Alors, Pulumi, c'est apparemment un DSL basé sur du Python, j'ai l'impression. Et par contre, sur leur site, je vois AnyCloud, mais je vois que AWS Azure et Google Cloud Platform, donc déjà IBM on oublie, et puis surtout OpenStack on oublie, Scaleway on oublie, enfin bon. Du coup, si on veut faire du multi-cloud vraiment poussé, ou même DigitalOcean, je ne sais quoi, c'est un peu dommage. Pour les autres, je ne les connais pas.
Alors moi je voulais juste rajouter un petit point qui peut dérouter, je sais qu'il déroute pas mal, c'est que là tu disais pour faire du multi-cloud et il y a une confusion que je vois souvent. Si vous demain vous faites une application sur AWS ou autre et que vous l'avez fait avec votre Terraform, c'est très propre, etc. et que vous voulez passer sur un autre fournisseur comme Scaleway par exemple, ça demandera quand même de redévelopper votre code. Votre code ne sera pas agnostique du cloud provider. Vous allez interroger des services qui sont en fait les services qui correspondent à votre cloud provider. Donc c'est pas totalement transparent là-dessus. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui pourraient croire ça, donc je préfère préciser ce point quand même.
Ouais, c'est le point que je voulais aborder justement, c'est que Terraform, c'est un super outil, c'est un super produit, mais en fait, chaque fournisseur, chaque provider, que ce soit cloud ou autre, a son propre formalisme. Et pour moi, ça, c'est un des points qui serait vraiment à améliorer, c'est d'avoir une agnosticité du provider derrière. C'est-à-dire, une VM, c'est une VM. Donc, qu'on la lance chez Amazon, qu'on la lance chez OpenStack, qu'on la lance chez Azure, ça reste une VM. Elle a besoin d'une taille disque, elle a besoin de CPU, de fréquence, elle a besoin je ne sais quoi. Mais finalement, il n'y a rien qui justifie d'avoir une description différenciée en fonction des cloud providers. Et moi, pour moi, c'est un vrai rêve, c'est d'avoir justement un Terraform qui me permette de m'adresser à n'importe quel cloud provider avec le même formalisme et du coup de ne pas retoucher mon code pour passer de l'un à l'autre. Récemment, j'ai fait une migration de CloudWatt vers OVH. On pourrait se dire, CloudWatt c'est de l'OpenStack, OVH c'est de l'OpenStack, il n'y a rien à toucher. Et ben même là, j'ai dû toucher des choses parce que, comme vous le savez peut-être, chez OVH, le réseau OpenStack, il n'est pas supporté et il faut passer par leur réseau spécifique. Et du coup, j'ai dû faire des mises à jour. Alors qu'en fait, si mon code était agnostique, j'aurais juste eu à lancer mon code chez le nouveau cloud provider et il n'y aurait pas eu de souci. Est-ce que ça, c'est un truc qui vous ferait rêver?
En tout cas, c'est sûr que les cloud providers, ils ont aucun intérêt à pousser ce genre d'initiative, j'imagine. Parce que ça impliquerait que ça serait encore plus facile de changer de cloud provider. Et donc du coup, j'imagine que il faudrait que dans Terraform, ouais, il y ait des espèces de conditionnels pour savoir. Suivant le provider pour traduire à chaque fois avec les bons paramètres. En tout cas, dans l'immédiat, ça me semble compliqué comme combat.
Alors, c'est vrai qu'on y pense pas mal, moi, justement sur une mission où on voudrait faire globalement un cloud interne, deux fournisseurs externes, un français et un américain. Et c'est une question qu'on s'est posée, est-ce que ce serait pas bien d'avoir un outil qui soit agnostique? C'est vrai que de un, bah, les fournisseurs n'ont pas intérêt à l'avoir, on va pas se mentir là-dessus, hein. Et il y a aussi autre chose qui est pour moi un no-go qui va empêcher ça, c'est tout simplement que tu vas niveler vers le bas. En fait, si tu vas faire une fonctionnalité agnostique, comme disait pour les VM par exemple, Ben, quand tu vas vouloir faire ta fonction pour appeler ta VM, tu vas lui donner un certain nombre de paramètres, mais tu vas lui donner le nombre de paramètres que tout le monde a. Si par exemple demain un fournisseur A, par exemple AWS, te propose de sélectionner une option en plus, mais que l'autre ne le fait pas, tu ne pourras pas l'implémenter parce que ça ne sera pas totalement agnostique du cloud. Donc tu vas équilibrer tout vers le bas et c'est un peu dommage, surtout que si tu compares avec, on va dire, les fournisseurs cloud majeurs qui ont beaucoup d'avance sur tout ce qui est service managé, c'est-à-dire que tu vas te priver de toute cette partie-là. Donc globalement, à part si tu le fais sur deux clouds qui ont à peu près un niveau de service et de service managé qui sont équivalents, je prends toujours l'exemple français de OVH et Scaleway qui ont à peu près un niveau de service managé à peu près égaux, là ça serait peut-être possible, mais dans le cas où tu vas ajouter quelqu'un d'autre dans l'adéquation qui a un peu plus d'avance au service managé, comme allez, on va dire GCP pour changer, bah tu vas, pour moi, tu vas niveler tout de suite vers le bas et c'est malheureusement c'est un peu dommage.
C'est une bonne remarque.
Alors pour moi, c'est pas aussi automatique parce que on pourrait très bien imaginer que Terraform soit, alors déjà pour tout ce qui est lock-in, c'est-à-dire ne pas pouvoir changer de fournisseur et autres, j'ai envie de dire, ils ont tous des API, donc ce serait plutôt à Terraform de s'adapter à chaque API tout en gardant un langage de configuration qui soit identique. Puis après, c'est lui tout seul qui va s'adapter à chaque cloud provider. Mais pour moi, il n'y a pas forcément de nivellement par le bas si tu codes dans Terraform toutes les fonctionnalités et que en fait le client soit assez intelligent pour savoir je m'adresse à tel cloud provider, ces fonctionnalités là elles sont pas possibles, donc du coup je vais désactiver grâce au feature flag tout ce qui est décrit ici ici ici, et puis je vais en informer l'utilisateur évidemment, mais du fait ça ne nivelle pas par le bas, mais en effet si tu vas chez un cloud provider qui a pas ces fonctionnalités là t'en profites pas. En tout cas moi quelque chose comme ça, ça me ferait vraiment, ça me simplifierait la vie, tout simplement.
Si je peux rebondir dessus, ok, tu pourrais gérer avec du conditionnel, mais ça marche pour des petits cas de choses un peu optionnelles, comme de la gestion d'alerting ou des options de bord. Mais si je te prends une infra relativement simple avec un load balancer, avec du health check sur AWS qui porte un certificat automatique avec ASM, qui a du coup derrière, on va dire, allez, on va être gentil, on va mettre des VM, on va mettre deux EC2 qui sont chiffrés avec du KMS qui va chercher une clé sur un HSM et qui derrière a une base de données managée, un RDS et un Elasticsearch managé. Demain tu veux migrer ça sur AWS, alors soit tu finis avec un conditionnel qui va te demander plus de temps de développement que toute ton application, auquel cas c'est pas rentable parce que si tu veux changer de cloud, t'as autant tout redévelopper et à maintenir, ça va être pour moi une horreur, mais ça va juste pas être possible en fait, parce que t'as trop d'options et de service managés qui sont pas à gauche ou à droite, et ça veut dire aussi que si tu dis tu gères du conditionnel, tu vas dans tous les cas te limiter à un certain nombre de clouds. Tu vas devoir te dire, je vais programmer mon truc et je vais mettre des conditions pour que ce soit compatible avec lui, lui et lui. Mais je ne pourrais pas faire un truc totalement agnostique. Je pourrais pas dire, j'ai fait du conditionnel pour deux clouds, ça marchera sur le reste. Non, tu vas toujours te limiter à une liste. Donc pour moi, dans ce cas-là, autant limite, faire un double développement parallèle d'infrastructure. Et d'un côté, tu as un code pour un cloud provider et un pour l'autre. Mais là, je vois pas autrement comment faire proprement.
Alors quand je disais conditionnel, dans ma tête c'était Terraform lui-même qui savait quelle fonctionnalité activer ou pas, mais pas l'utilisateur. L'utilisateur lui décrit son infra telle qu'il doit la décrire. En tout cas, c'est je pense quelque chose qui pourrait être intéressant au moins pour les briques communes. Après pour en effet les services managés, parce que ce que tu cites c'est des services managés qui sont très très spécifiques à certains fournisseurs, et en effet ils s'arrangeraient pour être ultra spécifique.
Après oui, je cite les services managés parce que je vois, moi c'est mon avis personnel, mais si c'est pour aller sur du cloud comme AWS, Azure ou autre, je parle des gros clouds, et faire que de la VM, va pas sur des clouds comme ça. Tu vas payer plus cher pour le même niveau de service et peut-être même des performances moins que chez d'autres. Donc l'intérêt c'est du service managé, c'est tout l'intérêt du cloud, sinon, du cloud public en tout cas. Sinon, pour moi, non, il n'y en a pas. C'est le principal intérêt.
Je crois que on a dépassé l'heure, là, du coup, je vois sur mon timecode. Je ne sais pas si vous voulez aborder un dernier petit point avant qu'on se quitte.
Non, pas spécialement, mais on a parlé vite fait donc d'infrastructure as code, mais il y a plein de questions sous-jacentes qui sont assez intéressantes sur comment on la teste, comment on travaille sur un repo avec ce type d'approche, etc. Comment on fait vivre ce genre de projet qui sont qui sont des sujets intéressants, mais qu'on abordera peut-être plus tard.
Oui, c'est vrai que c'est une bonne remarque de la part d'Erwan. C'est là on a abordé un peu le sujet de manière globale, du coup comment on débute. C'est vrai que l'infra as code, après, ben, faut aussi se poser la question de comment on organise son code, comment on organise son travail en équipe, donc avec Git, ça dépasse un peu, comment on le teste, comment on va le versionner, des choses comme ça. Donc c'est plein de problématiques qui s'ajoutent et qui sont tout aussi intéressantes et complexes. Donc je pense que c'était des bons sujets pour des prochains épisodes. Autrement, ouais, voilà, je rajouterai juste un petit mot pour la news du début sur le FOSDEM. J'essaierai de vous faire un article avec notamment des liens vers toutes les vidéos qui sont intéressantes, notamment celles sur les licences dont on parlait en début, sera peut-être plus simple.
Oui, et puis j'en profiterai pour mettre le lien vers ton blog, comme ça les gens pourront cliquer directement et obtenir l'article quand tu l'auras écrit. Je pense en effet que c'est un sujet qu'on a ouvert et qu'on n'a pas encore fini de faire le tour. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions à nous poser ou si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde, on a maintenant un questionnaire enfin, vous pouvez nous envoyer des questions. Le lien est en description, mais si vous voulez, ça nous enverra directement les questions et on pourra les traiter dans les prochaines épisode. Si vous voulez qu'on continue à discuter d'infra as code un peu plus en détail, de sujets un peu particuliers, n'hésitez pas à nous le dire. Et si vous voulez qu'on aborde d'autres sujets, je vous encourage aussi à nous le faire savoir. Et là, messieurs, je vous remercie et je vous dis peut-être à la prochaine fois, voire sûrement.
Merci, à bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
À bientôt, au revoir. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balade de diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple, c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. À bientôt.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.